pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Alors reprenons.
T'as pas une gueule de porte-bonheur.
Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un.
Bienvenue tout le monde à After Eight, épisode 179. After Eight, c'est le talk show qui déconstruit la pop culture. On y parle de tout, ciné, comics, séries, bouquins. Et aujourd'hui, on va parler un petit peu de tout cela avec mon camarade Benji. Et tu m'as manqué, Benji.
C'est vrai, bah, tu m'as manqué aussi. Ça faisait un moment là, qu'on n'avait pas enregistré.
Bah, pas depuis mon départ au Japon. Et comme tu peux peut-être l'entendre à ma voix, je ne suis pas encore remis. C'est la maladie la plus longue que j'ai jamais eue. Ça fait plus d'un mois que je suis malade et je n'arrive pas à m'en défaire. Et donc, si tu peux l'entendre, regarde, ça c'est le... T'entends le thé au miel, là, le thé?
J'entends le cling-cling.
Le cling-cling, le thé au miel. Bah voilà, ma gueule n'est plus qu'un strepsil humain, en fait. Depuis, j'en ai ras le cul, mais il n'y a pas grand-chose à faire à part attendre. Sinon, on me fiera des gros médocs, mais le résultat sera à peu de choses près le même. Donc voilà, à part attendre et se remettre bien, je n'ai pas d'autre solution.
Moi, je note qu'entre « Je suis malade » et « Quoi ma gueule », t'es dans une thématique Serge Lama aujourd'hui.
C'est vrai. Serge Lama que je voyais parfois passer parce qu'il habitait pas loin de là où j'habitais avant.
Ah bah voilà.
Voilà, à chaque fois, je disais, j'ai dit, mais c'est Serge Lama. On m'a fait, oui, effectivement, c'est Serge Lama. Et je pense qu'on est le seul podcast à parler de Serge Lama cette semaine.
J'allais dire, on a perdu peut-être 50% de nos auditeurs là, en mentionnant Serge Lama, mais écoute, c'est pas grave. On est aussi des prescripteurs, hein, donc voilà, si vous ne connaissez pas Serge Lama, vous pouvez découvrir.
C'est vrai.
Ses plus grands disques sont chez Universal, comme disait l'autre.
Peut-être.
Je sais même pas.
Et donc, je suis revenu quand même vraiment... un peu au bout du rôle, je dois t'avouer.
En plus, ah oui, tu étais au Japon pour le Tokyo Game Show.
Ouais, et je suis tombé malade là-bas, donc tu vois, c'est dur de manager l'équipe.
Ouais.
Donc j'ai fait plutôt rôle de producteur, c'est-à-dire j'ai fait moins de plateaux. Et puis j'ai fait confiance aux qualités de Greg et de Pouillot et tout. Mais ils sont extraordinaires dans ce qu'ils font et tout. Et il restait plus qu'à faire de la logistique, à gérer un peu le planning, Uber. Et voilà, c'était mon rôle. Et en fait, tu sais quoi? Quand t'es fatigué, tu sais, quand t'es malade et tout, c'est pas la peine de forcer le truc. Je faisais ce qu'il fallait faire, mais après, il y a eu des cas où je me suis endormi, genre juste parce que j'étais assis quelque part, j'étais au bord de l'épuisement, j'ai dormi genre peut-être 10 heures en cumulé sur une semaine. C'était pas le voyage le plus agréable du cosmos, si tu veux savoir.
D'accord. Bah écoute, moi aussi, de mon côté, j'ai voyagé, puisque après notre dernier enregistrement, je suis parti. J'ai rendu visite à un ami à Washington DC, donc à la capitale, où je n'étais jamais allé. On a fait les monuments un peu classiques. On a fait le Lincoln Memorial, on a fait le Roosevelt Memorial, le Jefferson Memorial. Enfin,
tous ces endroits qu'on voit dans Olympus Has Fallen, je crois.
Ouais. Puis dans Bones, la fameuse série. Mais surtout, on est allé au Capitole. Et alors, figure-toi, Daniel, alors je ne sais pas si tu le sais, mais il n'est pas nécessaire de forcer l'entrée du Capitole en essayant de renverser le gouvernement pour y rentrer. Il suffit de passer par l'accès visiteur. Alors moi, je pensais qu'il fallait essayer de faire un coup d'État, défoncer les fenêtres, tuer un agent de sécurité pour rentrer. Hein, c'est ce que j'avais vu à la télévision. Eh ben non. Ben non, il suffit de passer par l'accès visiteur. Et là, tu as même une visite guidée gratuite.
Ah, ben ça va.
C'est incroyable quand même. Hein. On découvre des choses.
Ça valait beaucoup de devenir citoyen américain.
Ben voilà, exactement. Mais donc, c'est évidemment pas uniquement réservé aux citoyens américains, mais si vous voulez visiter le Capitole, c'est complètement faisable, c'est gratuit. Vous arrivez, vous passez par le visiteur, par la sécurité, et puis ensuite, on vous met dans un groupe, et puis vous avez un guide qui vous explique. Voilà, donc on est allé sous la rotonde, et c'est assez impressionnant parce que on t'explique que la rotonde du Capitole, qui est donc le grand dôme qui est le reconnaissable, elle peut contenir la Statue de la Liberté dans son intégralité quand même. Donc, c'est assez haut quand même, mine de rien. Donc ouais, non, c'est vraiment un bâtiment qui est très très imposant et plutôt intéressant. Et ouais, non, la visite de DC, bah il y a quand même il y a pas mal d'histoires derrière. Enfin, il y a un côté un peu solennel. Je pense notamment au Lincoln Memorial, qui est cette statue de Lincoln gigantesque où il est assis sur une chaise face au Washington Monument. Et le Washington Monument, c'est cet obélisque dont on se rend pas forcément compte à quel point elle est gigantesque en fait. Moi, je m'imaginais, bon, bah, c'est bon, on en a une à la Concorde d'obélisque, ça va, quoi. Non, mais le Washington Monument, elle est 10 fois plus haute, en fait. On s'en rend pas forcément compte avant de la voir en vrai.
Moi, je m'en rends compte parce que j'ai beaucoup vu Captain America parler à cette statue.
À la statue de Lincoln.
Dans tous les comics. Et je crois que Spider-Man a fait... il a swingé autour, là, pendant le...
Dans le premier, dans Homecoming.
Ouais.
Il escalade le Washington Monument, et c'est vrai que j'aurais dû me rendre compte à quel point il était gigantesque, parce que oui, à l'intérieur, il y a un ascenseur, tu peux monter au dernier étage dedans. Donc oui, c'est quand même autre chose que celui de la Concorde, effectivement.
D'accord.
Il est mouse.
Ah bah écoute, j'espère que t'as passé de bonnes vacances. Du coup, t'as pas eu le temps de jouer, ni d'aller au cinéma, ni rien.
Alors, détrompe-toi, c'est que ça, c'était il y a quelques semaines quand même. J'ai eu le temps depuis.
Ah.
Et puis, il y avait quand même pas mal de trajets en avion à faire. J'ai eu le temps de... Bah, j'ai emmené ma Switch avec moi, donc j'ai joué. Hein. J'ai joué, dis-toi bien, à Immortals Phoenix Rising. Est-ce que ça te rappelle, ça te dit quelque chose, Immortals Phoenix Rising? Est-ce
oui.
que tu vois ce que c'est?
J'ai joué 4-5 heures. Voilà. Avant de me dire, ah, c'est un peu un jeu que j'ai déjà joué.
C'est un jeu que j'ai joué.
Je vois à qui ça s'adresse.
Non, mais voilà.
Et c'est
Immortals Phoenix Rising.
Et c'est pas pour moi. Et c'est dommage parce qu'en fait, je voyais le truc. Parce que j'aime bien l'univers, j'aime bien surtout les gens grecs.
La mythologie grecque.
Que mon fils adore, je tiens à préciser. Il m'a demandé aujourd'hui que je lui ramène un livre de mythologie, là. Donc, écoute.
Ouais.
Il est très, très bon sur mythologie. C'est bon.
Je vais parler un peu du jeu et ensuite je vais te demander pourquoi tu penses que c'était pas pour toi. Donc, Immortals Phoenix Rising, c'est ce jeu qui a été annoncé en grande pompe par Ubisoft. Alors, je sais plus quel événement ça avait été qu'il avait présenté. Je me demande si c'était pas alors que l'E3 existait encore ou un Summer Game Fest, mais quelque chose comme ça. Et au moment où Immortals Phoenix Rising a été annoncé, la réaction, en anglais, on appelle ça une knee-jerk reaction, la réaction immédiate de la totalité des gens et des commentateurs, c'est OK, Ubisoft, ils font leur Breath of the Wild. Parce que clairement, ça ressemblait à Breath of the Wild dans l'aspect graphique, dans l'univers, dans les choses qu'on te proposait, les déplacements. Parce que oui, l'héroïne, elle se déplace, elle a les ailes de Dédale avec lesquelles elle peut planer, donc exactement comme Link dans Breath of the Wild. Et Ubisoft s'était immédiatement défendu, disant non, c'est un projet qui est beaucoup plus vieux. C'était dans les cartons longtemps avant la sortie de Breath of the Wild. Vraiment, il y a des ressemblances certes, mais c'est des coïncidences. Et moi, maintenant que j'ai joué 60 heures au jeu, que je l'ai terminé quasiment à 100% et que je suis en ce moment sur les DLC, je peux dire foutaise ! Ubisoft se fout de votre gueule, c'est complètement Breath of the Wild. Alors, peut-être que le projet existait déjà avant, mais c'est évident qu'une fois que Breath of the Wild est sorti, il a pris une autre direction, le truc, parce que absolument tout est identique. Alors, il y a bien 2-3 trucs qui changent. Oui, il y a une attaque faible, une attaque forte, avec deux armes que tu peux porter et les armes ne se cassent pas. Mais il y a un PNJ qui, à un moment, fait une blague sur le fait que ses armes à lui, elles se cassent tout le temps et qu'il doit faire un truc de travers. Tout le reste est identique. Il y a une structure à base de sanctuaires qui sont là, les portes du Tartare dans lesquelles tu rentres. Et à l'intérieur, tu as soit des trucs qui sont des combats, soit des trucs qui sont plutôt des puzzles et des énigmes. Et à la fin, tu récupères quelque chose qui améliore ton endurance. C'est vraiment, mais c'est presque une copie carbone avec une surcouche mythologie grecque. Mais c'est pas un problème. Moi, je trouve ça vraiment pathétique qu'Ubi ait essayé de faire en sorte que non, on n'a pas du tout copié. Assumez, les gars, dites juste Breath of the Wild est un chef-d'œuvre. On a voulu proposer une relecture à notre sauce avec de la mythologie grecque derrière. Et ça serait très bien. Il y a absolument aucun problème à reprendre ce qui marche. Enfin, je veux dire, c'est comme si Digimon avait essayé de faire croire qu'ils n'étaient pas un plagiat de Pokémon quand c'est sorti. Bah non, c'était exactement la même chose. Là, c'est pareil. Assumez complètement et ça posera aucun souci plutôt que d'essayer de vous en défendre. Et ça en est grotesque. Moi, pendant tout le temps où je faisais le jeu, je me disais, mais comment ils ont cru que ça allait passer d'essayer de faire croire que c'était pas largement inspiré de Breath of the Wild. Et le jeu a ses qualités en plus.
As mis 60 heures. Est-ce que c'était satisfait?
Honnêtement, j'ai pas passé un mauvais moment. J'ai plutôt passé un bon moment. Et en plus, il y a quelque chose que Breath of the Wild n'a pas. C'est un jeu qui est narré. Au début, on t'explique que il y a une situation un peu compliquée dans ce monde grec mythologique fantasmé. Et il y a Zeus qui va chercher Prométhée pour que Prométhée l'aide. Et Prométhée lui dit, OK, je vais t'apporter ton aide. Mais avant, je vais te raconter l'histoire d'un personnage. Et le personnage, c'est Phénix, donc ce personnage qu'on incarne. Et donc, tout le jeu est raconté par Prométhée avec Zeus qui fait des commentaires. Et les deux, ils ont une petite... Il y a un petit aspect échange de punchline entre les deux qui est plutôt drôle. C'est plutôt bien écrit. Il y a des trucs, il y a des blagues un peu méta. Il y a des blagues qui, justement, sont archi-référencées mythologie grecque. Si vous ne connaissez pas votre mythologie, elles vont vous passer au-dessus. Et là-dessus, le jeu se démarque. Et donc, j'ai trouvé ça plutôt intéressant dans son approche.
Tu jouais dans quelle langue ?
En anglais.
En anglais, d'accord. Parce que je me souviens d'un truc, c'était un argument marketing. Je crois que la voix de Zeus, c'était un mec de la famille Astier. Et je crois que c'était le père ou le fils.
Et il me semble, oui, qu'en VF, Zeus, c'est Simon Astier.
Ouais. Je sais plus si c'est Simon ou je sais
Attends,
pas.
Non, si, c'est si, Simon, c'est pas
enfin,
le père.
Un mec
Simon,
de la galaxie. Genre, un mec en tout cas qui était dans.
Le père Astier, oui, oui, oui.
Voilà.
Non, c'est pas Simon Astier. Simon Astier, c'est son frère. Donc, ça doit être. Bien, écoute, j'ai oublié le prénom.
Bon, on va l'appeler Robert.
Astier,
mais... On va l'appeler Robert dans le.
Robert Astier. Bon, mais bon, voilà. Effectivement, en VF, c'était lui. Mais non, je l'ai fait en VO, enfin, en VO, en anglais. Et ouais, non, je trouve que le jeu a ses propres qualités. Et que tout ce qu'il a pompé sur Breath of the Wild, bah, il le pompe globalement bien. Alors après, ça reste un open world Ubisoft. Ça veut dire que tu as moyen, au moment où tu... pas quand tu es en haut d'une tour, mais presque. En gros, tu escalades une statue géante qui est l'équivalent des tours. Et ça te permet de découvrir la carte. Et quand tu es de là, tu peux avoir une sorte de vision de l'aigle qui te permet de découvrir où sont les trésors. Et du coup, bah, tu te rends compte que tu as une carte avec 50 000 objets à récupérer et trucs comme ça.
Voilà.
Et ça, c'est un peu chiant parce qu'au final, le scénario, c'est beaucoup de « il faut que tu ailles récupérer tel objet qui est à tel endroit, mais pour ouvrir la porte, il te faut telle clé, mais pour récupérer la clé, il te faut récupérer 5 fragments, et pour récupérer 5 fragments, il faut récupérer d'autres trucs. » Ça, c'est vraiment le point faible. Mais honnêtement, sinon, j'ai pas passé un mauvais moment. Les combats sont plutôt pas trop mal foutus. Il y a un mécanisme de parade, un mécanisme d'esquive exactement comme dans Breath of the Wild, sauf que les timings sont largement plus ouverts, donc c'est beaucoup plus facile d'accès si jamais vous avez fait Breath of the Wild et Tears of the Kingdom. Au début, c'est un peu chaud les timings dans les combats. Au début, on a tendance un peu à se faire défoncer dans les combats. Là, non, c'est pas le cas, c'est vachement plus abordable. Donc voilà, moi je trouve que c'est un jeu qui est tout à fait correct en solde. Je vous dirais pas de le prendre à plein tarif. Mais je l'ai chopé en solde à moins de 20 balles avec tous les DLC. Franchement, ça valait largement le coup. Donc voilà, moi je trouve que c'est un jeu qui aurait gagné à assumer pleinement ses références et ses inspirations. Voilà, Daniel, je t'écoute. Pourquoi toi tu n'as pas du tout accroché ?
Oh, ça remonte il y a tellement longtemps. Mais tu sais quoi, en fait, maintenant j'en suis au point où quand je vois un jeu comme ça, c'est-à-dire avec une map, avec des petites diodes à récupérer dessus, je me demande. Pourquoi je fais ça et est-ce que je ferais pas mieux de faire autre chose, quoi?
D'accord.
C'est vraiment ça.
Ah, je peux l'entendre. Hein. Ouais. C'est que des jeux comme ça, on n'en a pas manqué. On en a eu plein pendant des années. Donc,
J'en ai un cette année que j'aime bien. C'est Rise of Ronin.
Ouais.
Parce qu'il a une dimension politique et culturelle qui m'intéresse. Mais c'est celui que j'ai choisi.
D'accord. Donc, un par an et tu t'y tiens.
Et je suis reconnaissant à... Au retard, alors c'est pas dans l'avantage de Ubisoft, peut-être on en reparlera, mais tu sais que Ubisoft a retardé le Assassin's Creed,
le prochain, ouais.
Pour le brush-up, évidemment, parce que je pense que si tu retardes autant, c'est qu'il n'était pas fini, tout simplement.
Ouais, et puis il y a une réception un peu limite de leur Star Wars, ça a l'air de les avoir déçus.
Ouais, il y a Star Wars, mais surtout il fallait brush-up, enfin tu sens que le jeu n'était pas fini, quoi.
D'accord.
Et je pense que c'est un jeu qui aurait pas mérité d'avoir, tu sais. Comme il y avait un Assassin's Creed qui était sorti et que la version PC était catastrophique.
Ah bah oui, c'était Unity.
Et les gens postaient des photos de mecs atroces.
Ouais, ouais. Ah bah ça a été un gros défaut d'Ubisoft longtemps, c'était de shipper trop tôt et de corriger derrière, quoi. Mais malheureusement...
Tu sais quoi, moi, je m'en tiens à la solution Nintendo, c'est un jeu qui est loupé, bah, il sera toujours loupé, tu vois. Il faut être sûr de son coup. Donc c'est tant mieux pour eux. Mais évidemment, pour la santé de l'entreprise, c'est pas le meilleur auspice.
Pour les actionnaires, oui, c'est pas une solution.
Pour les actionnaires, il faut pour les gens qui travaillent dedans, et je les plains parce que
ça rallonge le crunch, c'est ce que tu veux dire.
Ouais, et c'est un truc que j'avais évoqué dans Soumission Turbo, c'est que toutes ces entreprises, en fait, vivent sur un ou deux jeux maintenant. Parfois, ils ont un jeu tous les 4 ans qui sortent ou 5 ans.
Ouais.
Je parle même pas de Rockstar. C'est-à-dire que toute la pression de l'entreprise repose sur un jeu ou deux sorties. Et il ne faut pas se louper. C'est-à-dire que Star Wars...
Après Rockstar, ils ont GTA Online. Ils n'ont pas trop la pression, là. C'est
non,
ils
d'accord,
ont une cash machine.
Tu vois ce que je veux dire, c'est que...
Mais je vois ce que tu veux dire, oui, sur la régularité des sorties.
Voilà, si tu fais reposer tout l'univers de l'entreprise sur une à deux sorties et qui sont genre... espacés de 3 à 4 ans, c'est pas viable, et sans parler des gens qui travaillent dessus, parce que parfois, le projet, il peut être annulé carrément, et donc, qu'est-ce que tu fais, quoi? Bref, je...
Et puis, ici, ils se croûtent aussi. Hein.
Et ici, ils se croûtent aussi. Donc, c'est pas, c'est ni bien pour Ubisoft, mais ni bien aussi pour tous les autres éditeurs, hein, j'ai envie de te dire.
Pourquoi est-ce que je perds mon temps avec un branquignol dans ton genre, alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées ? Comme ranger mes chaussettes, par exemple.
Est-ce que on peut parler comics un peu ici ?
On peut parler comics, je t'en prie.
Est-ce que tu te souviens de l'univers Ultimate ?
Alors, je me souviens de l'univers Ultimate. Alors, j'avais lu tout Ultimate Spider-Man.
Ouais.
Jusqu'à un certain point. Par contre, j'ai pas lu grand-chose du reste de l'univers Ultimate.
Je t'avais dit que j'avais tout relu Ultimate Spider-Man.
Ouais.
Mais l'Ultimate Universe est ressorti l'année dernière. Fin d'année dernière.
Mais c'est une réédition ou ils l'ont reboot ?
Alors, c'est ça le truc. C'est pas un reboot, c'est pas un remake, c'est autre chose.
D'accord. Mais c'est bien une nouvelle œuvre. C'est pas juste, ils ont réédité...
C'est bien une nouvelle œuvre. Et,
d'accord.
Et c'est Terre 6160. Voilà, 6160.
D'accord. Je note la petite astuce. C'est pas 616, c'est 6160.
C'est pas 616 et c'est pas 1610 qui était le précédent Ultimate.
Ouais.
Ce qui se passe, c'est que c'est Hickman, évidemment, qui est aux manettes. Ça commençait déjà l'année dernière et j'étais passé à côté parce que je trouvais ça, je me disais, ah, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et pour que je passe à côté d'un truc de Hickman, c'est que vraiment, ça ne me plaisait pas vraiment.
Ouais.
Et là, je lui ai redonné sa chance. Et en fait, ce qui se passe, c'est que c'est un tout nouveau monde. Voilà, c'est un tout nouveau monde, mais dans lequel débarque The Maker. Est-ce que tu te souviens de The Maker ?
Ah bah oui, The Maker, c'est Reed Richards méchant.
C'est le méchant Reed Richards, justement, de l'univers Ultimate. Mmh. Il débarque dans ce monde et il se dit, je vais foutre la merde. Et il va voir tous les super-héros au moment de leur création, à peu près au moment de leur création, pour foutre le souk. Par exemple, il va voir le jeune Peter Parker le jour de visite du labo, et il attrape l'araignée avant. Et en fait, il fout la merde partout. Et c'est un horrible, horrible mec, évidemment, comme tu sais. Il va voir le Reed Richards de cet univers-là. Et tu vois, et il passe le soir sur le tableau et il change un peu les calculs. Et en gros, il fait en sorte que les Fantastic Four se foirent. Et il meurt. Enfin, tu vois, c'est des trucs horribles. Et donc, du coup, il transforme le Reed Richards de cet univers. C'est pas du tout le Reed Richards que tu connais, quoi.
D'accord.
Et c'est un univers où les super-héros ont été coq-bloc, en fait. Ils ont été coq-bloc. Ils ont pas pu être les super-héros parce qu'il y a un mec plus puissant qui sait exactement ce qui va se passer et qui les empêche.
Ouais, ouais.
Et quand bien même, ces super-héros, ils arrivent à se former. Par exemple, c'est pas le Iron Man de cet univers, c'est Howard Stark, c'est son père.
D'accord.
Et il se passe un truc, il y a une espèce d'affrontement, et The Maker est coincé dans une espèce de loop, dans une ville parallèle, un monde parallèle, avec Iron Man. Et ça va durer 24 mois.
D'accord.
Au bout de 24 mois, il va sortir. Donc, cet univers va durer au moins 24 mois. On est en train de se dire qu'est-ce qui va se passer dans 24 mois. C'est à peu près ça. Donc, tu me suis jusque-là. Cet univers un peu de loser, hein, quand même.
Hein. Jusqu'ici, je te suis, ouais.
Et donc, les Ultimates vont essayer de se former. Et le flagship, le comics flagship de cet univers-là, c'est Ultimate Spider-Man. Et alors, je te parle d'un truc. Ces comics sont en train de sortir en ce moment en France. Donc, en plus, je suis à peu près raccord. Ils sortaient l'année dernière aux États-Unis. Là, ils sont en train de sortir en France. Donc,
d'accord.
Ultimate Spider-Man, le concept, c'est Peter Parker. Déjà, il est quarantenaire, il est barbu, il est beau gosse. Amandine, il fait ouah, genre, elle a regardé les photos des images, genre, il est trop beau. C'est écrit par Hickman, d'ailleurs, et mise en image par Marco Quattrocento. Cecchetto, voilà, Cecchetto. Excuse-moi, parce que j'allais dire Quattrocento. Non, c'est pas le mec du 14e siècle, évidemment. Et il dessine très, très bien, sexy dad Parker, quoi.
D'accord.
Et ce Peter Parker, donc, du coup, il est marié à Mary Jane, il a deux enfants. Et un jour, il y a quelque chose qui fait qu'il va devenir Spider-Man quand même. Mais il devient Spider-Man alors qu'il n'a pas eu de sacrifice de Ben.
Ouais.
Ce Ben est toujours là, il travaille pour Ben. Et donc, en fait, c'est juste un mec qui va avoir le choix de devenir héros, et il devient héros juste par choix.
D'accord.
Et c'est vraiment un twist très, très bizarre, hein, dans l'univers de Spider-Man.
Dans
Spider-Man, tu regardes dans Spider-Man, ils ont tous genre quelqu'un qui meurt à un moment, tonton.
Ah oui, Spider-Man, généralement, c'est un truc qui lui tombe sur la gueule, oui. Qu'il n'a pas demandé, quoi. Donc,
c'est le personnage du sacrifice. C'est genre, si j'avais fait ça et pas ça, bah, là, c'est genre, non, il choisit de le devenir. Et donc, c'est c'est plutôt bien écrit, c'est Hickman, mais c'est Hickman, pas genre, je fais des plans sur la comète, c'est genre, il raconte vraiment une histoire très, très simple. Et c'est ce Spider-Man-là, et c'est très, très chouette, c'est très, très bien dessiné.
D'accord.
Et Le twist, c'est qu'il y a eu bon, des séries pour introduire cet univers qui s'appelle Ultimate Invasion. Il y a Ultimate Black Panther. Alors, il est très bien, mais j'ai pas trop compris. Les gens l'adorent, en fait. Là, les critiques sont super bonnes. Et en fait, j'ai l'impression que c'est un peu un melting pot de pourquoi Black Panther est cool, quoi.
Ouais.
Aujourd'hui, il reprend beaucoup de l'univers des films. Il y a Ultimate X-Men qui est dessiné, figure-toi, par Peach Momoko.
Ah ouais.
Et donc, c'est un manga. Elle est écrite et dessinée par Peach Momoko. Elle n'a pas loupé un seul numéro jusque-là et c'est super beau. C'est tout, tout est peint. Tout est peint. Genre, c'est vraiment...
Ah, vache.
Et c'est à la fois une histoire très, très manga et en même temps qui respecte un peu les codes des X-Men et tout. C'est très, très bien écrit. Et la nouvelle série, donc The Ultimates, est enfin sortie et qui est écrite par Dennis Camp. Et alors, ce qui est cool avec Dennis Camp, tu sais quoi? C'est que, tu sais, il y a ce mouvement genre pas de politique dans mes comics et tout ça.
Ouais, bien sûr.
Et Dennis Camp, lui, il a dit « Hold my beer ». Et il a fait le comics le plus politique du cosmos. Il a fait genre, il a fait le truc le plus un des comics les plus géniaux que j'ai lu de ces dernières années. Vraiment, il est son Ultimates, il est assez génial. Il est vraiment une référence constante à l'actualité parce que ça parle événements bombes nucléaires, ça parle d'agression des peuples. She-Hulk, c'est une Maori, c'est une femme des îles. Et alors, je tiens à dire que son Hawkeye, évidemment, c'est un Native American.
D'accord.
Donc, c'est vraiment, genre, il est on point. Et genre, il dit, peut-être Captain America qui dit, est-ce que tu sais au moins ce que représente mon drapeau? Et lui, il fait, pas la même chose que pour moi, je suis certain. Enfin, tu vois, c'est ouais, vraiment ouais. très, très politique. Et du coup, c'est aussi dans ce comics où on a les origines du Reed Richards, qui est Dr. Doom dans cet univers. Doom D'accord. et Red Richards dans cet univers. Tu vois le truc?
Je vois le truc.
Parce que The Maker a même cockblock Doom dans cet univers. Pour te dire à quel point. C'est vraiment, c'est très, très pointu. C'est très, très bien écrit. Et donc, dans cet Ultimate, il y a Iron Lad, donc qui est le fils d'Iron Man. Il y a Doctor Doom. Il y a Thor. Et il y a Sif. Et il y a Giant Man et Wasp et Captain America. Et c'est vraiment très, très chouette. Et chaque numéro, t'as l'impression que c'est une réponse à l'actualité. C'est pas nul et c'est plutôt bien écrit. Alors on est dans un monde parallèle, donc du coup il y a la coalition européenne, tu vois, il y a l'Amérique du Sud et avec l'Amérique du Sud et tout ça. C'est un monde un peu différent tel qu'on le connaît. Mais en tout cas, c'est vraiment je recommande si vous aimez les comics, si vous aimez la politique dans les comics mainstream, c'est ce qu'il faut lire. Hein. Donc, je vous recommande, c'est l'Ultimate Universe. Je ne sais pas sous quel format ils le sortent en France, mais en tout cas, ça s'appelle The Ultimates. Et ça faisait longtemps que Ultimates, ce n'était pas aussi, aussi génial, hein, parce que la dernière fois que j'ai lu l'Ultimate, c'était beaucoup moins bien. Et là, c'est vraiment très, 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 très bien. Évidemment, toi, je sais que tu n'aimes pas la politique dans tes BD.
Non, ben non.
je ne te recommande pas. En plus, Ultimate Invasion, le dessinateur, c'est Brian Hitch pour faire genre un petit peu Ultimates d'il y a 15 ans, quoi. Donc, c'est plutôt bien pensé. Voilà, c'était ma reco avant l'heure, mais voilà, j'adore le... Chaque nouveau numéro d'Ultimate, c'est à chaque fois un vrai, vrai plaisir, quoi. Sans parler des autres, Spider-Man et X-Men.
Mais alors, du coup, quand on les cherche pour les acheter, est-ce qu'ils ont pas un nom particulier pour pas confondre avec l'ancienne série Ultimate? Comment ça marche?
Non, il s'appelle Ultimate Invasion. Je crois que c'est le volume s'appelle Ultimate Invasion. Ensuite, t'as les volumes séparés de Spider-Man, de Black Panther, de X-Men. Et de...
Mais genre, le Spider-Man, il repart de zéro, il repart de 1
Ouais, il repart de 1. Ultimate Spider-Man 2024, voilà, numéro 1. Il y en a 12 déjà de sortie. 12, peut-être 10, je veux dire.
Le 2024 est dans le titre ou comment ça se passe?
Non, c'est Ultimate Spider-Man, tu verras très bien que c'est le nouveau, quoi. Mais c'est...
D'accord.
Et puis surtout, tu l'ouvres et tu vois Parker avec des enfants, tu vois, avec des gamins, tu comprends tout de suite qu'il a des problèmes de babysitter, quoi.
D'accord, ok.
Et normalement, c'est un univers fini, c'est-à-dire à un moment, ça va s'arrêter, hein, parce que il va se passer quelque chose. Mais Dennis Camp est, je pense, la nouvelle... Tu te souviens, j'avais prédit que... Il y a quelques années que Chip Zdarsky, ça allait être la star de la Marvel, la star de DC.
Ouais.
Et on y est, ça y est, il a écrit Batman. Mm. Et là, maintenant, je pense que c'est le tour de Dennis Camp. Dennis Camp, je pense que c'est la vraie, vraie future star de la Marvel.
D'accord. Oui, ça fait un moment que j'ai pas lu de comics, donc ça pourrait être un truc qui pourrait m'intéresser, effectivement.
Et j'adore The Maker. Je trouve que The Maker, c'est vraiment un des méchants les plus jouissifs du cosmos, quoi. Et il y a un numéro à lire, vraiment, c'est celui sur l'origine du Docteur Doom de cet univers. Parce que tu vois The Maker qui... C'est d'un niveau de nuisance que j'ai jamais vu dans, chez un méchant. Genre, vraiment, c'est vraiment dégueulasse ce qu'il fait. C'est horrible, voilà.
Et ça, donc, c'est dans la série Ultimates de base ?
Ça, c'est The Ultimates, ouais.
D'accord, ok.
Et à lire avant, c'est Ultimate Invasion. Voilà, c'est le seul truc vraiment à lire avant. C'est le truc qui introduit l'univers.
D'accord, Ultimate Invasion d'abord, et ensuite toutes les séries dérivées Ultimates. Ok.
S'il n'y a que deux trucs à lire, c'est Ultimate Invasion et The Ultimates. Mais si vous voulez vous faire plaisir, il y a Ultimate X-Men, Black Panther et Spider-Man.
Très bien. Bah écoute, moi, j'ai décidé dernièrement d'arrêter d'être un pigeon. Car, et oui, non mais tu sais, tu me connais, j'ai tendance à faire parfois des choix un peu douteux. Et donc, j'avais mon renouvellement de Nintendo Switch Online qui arrive avant la fin du mois. Et j'ai décidé d'annuler mon pack additionnel, celui qui te donne accès aux jeux Game Boy Advance N64 et à des DLC dans Animal Crossing et dans Mario Kart. Et donc, au lieu d'avoir le pack additionnel, je vais acheter le DLC de Mario Kart à part pour pouvoir continuer à en profiter quand j'ai des amis à la maison. Mais aussi parce que ce pack additionnel aux États-Unis, c'est 150% d'augmentation sur le prix de l'abonnement normal. Alors, je sais qu'en Europe, c'est le double. Ici, c'est plus du double. Ici, on passe de $20 à $50 par an pour une offre que personnellement, je prends un peu comme une insulte parce que, et je m'explique, déjà, l'émulation N64 n'est pas au niveau. Ça s'est beaucoup amélioré par rapport à ce que c'était au début, mais ça reste toujours pas génial. Après, l'offre N64 n'est pas une offre qui m'intéresse beaucoup de toute façon. Mais là, ils ont sorti deux F-Zero, dont un qui était complètement inédit en Occident. Ils ont sorti donc F-Zero Climax et F-Zero GP Legends. GP Legends était sorti aux États-Unis. Je ne me souviens même pas s'il était sorti en Europe. Mais Climax, c'est sûr, il était exclusif au Japon et c'est le dernier F-Zero qu'on ait jamais eu. Hein, F-Zero Climax, il n'y en a jamais eu depuis.
Ah, il y a F-Zero 99.
Oui, F-Zero 99, c'est vrai, qui est un peu à part et dont je vais continuer à profiter. Et lui, pour le coup, c'est une offre sympa parce que ils ont rajouté des nouveaux véhicules et des nouveaux circuits. Alors, je dis nouveaux, ils ne sont pas vraiment nouveaux. Ils étaient jusqu'ici exclusifs au Satellaview. Mais là, le fait qu'on les ait, c'est complètement inespéré. Pour nous, occidentaux, c'est quelque chose dont on n'osait même plus rêver. Donc oui, tu as raison, F-Zero 99, c'est peut-être le nouveau, entre guillemets, F-Zero qu'on a enfin eu depuis F-Zero Climax. Mais F-Zero Climax, pour revenir à lui, c'est juste la ROM japonaise avec zéro effort de traduction, avec rien. Ils t'ont juste drop la ROM japonaise avec les textes en japonais et je trouve que c'est vraiment du foutage de gueule.
Tu voulais qu'ils te le traduisent, Loulou ?
Bah oui, je voulais qu'ils me le traduisent.
Oh là là, t'es quand même, très ambitieux, quand même.
Bah écoute, ils l'ont fait pour Fire Emblem, hein. Tu sais qu'ils l'ont fait pour le premier Fire Emblem.
Oui, mais ouais, Fire Emblem, parce que les textes existaient déjà, non ?
Non.
Parce que c'est un remake.
Le premier Fire Emblem sur Famicom n'avait jamais été traduit, et ils l'ont sorti et ils ont traduit le jeu.
Bah ok, mais parce que c'est du vintage, mais là...
C'est du vintage, F-Zero Climax.
Ouais, mais est-ce que t'as vraiment besoin des dialogues de F-Zero Climax pour l'histoire ?
Oui. Pour l'histoire, oui, t'as besoin des dialogues. Et raison de plus, c'est pas un RPG, il n'y a pas des tonnes de textes à traduire, ils auraient pu faire l'effort, mais ils ne le font pas. Et c'est un truc qui commence vraiment à m'énerver, que Nintendo fasse vraiment zéro effort sur un service où on paye 150% de plus, quoi. Enfin, je suis désolé, moi je veux bien payer pour un service de qualité, mais si tu me balances des ROM pas traduites, j'estime que tu ne respectes pas ton client. J'estime que c'est limite de l'insulte de nous sortir des ROM comme ça non traduites. Alors c'est déjà bien qu'on les ait, mais franchement, moi j'ai l'impression qu'on balance un os à ronger parce que je suis assez pigeon pour payer. J'en ai marre de soutenir ce système, j'en ai marre de soutenir vraiment une politique du moindre effort, et j'estime que quand ils sortent les jeux en Occident, il faut qu'ils les traduisent. Voilà, je suis désolé, mais il y a un moment, il faut arrêter le foutage de gueule.
Non, mais
donc,
j'ai décidé de ne pas
renouveler mon pack additionnel.
Tu préfères...
Non, mais Daniel, c'est tellement de boulot. Mais je paye pour qu'il fasse ce boulot. Je paye.
Ah, je sais pas. Est-ce que... C'est... Non, mais je veux dire, oui, je veux bien traduire tout, mais regarde tout le patrimoine qui reste à traduire. Enfin, tous les jeux Square Enix, tous les...
Mais ils les sortent pas, ceux-là.
Ouais, non, mais bon.
Moi, je suis désolé, mais à partir du moment où ils les sortent, les jeux, qu'ils les traduisent. Et l'offre déjà misérable de base... Parce que c'est pas avec l'offre Mega Drive qu'on a eu, où on a eu genre, on a eu 20 jeux à la sortie, puis 5 de plus un mois suivant, et puis depuis terminé, il n'y a plus jamais eu la moindre mise à jour sur Mega Drive.
Ça, d'accord, ouais, ça, je veux bien croire que. Qu'est-ce qu'ils foutent à Iron Man sur Mega Drive?
Même que sur Mega Drive, le catalogue est misérable, on a droit à peut-être 3 nouveaux jeux GBA tous les 3 mois, Et pareil, sur, et moins que ça sur N64. Enfin, je veux dire, leur offre, elle vaut pas le coup, quoi. Je suis désolé, mais l'offre ne vaut pas l'argent qu'ils nous réclament. C'est pas possible.
Moi, je pense que c'est, faut pas envisager ça comme ça, mais il faut plutôt voir ça comme un truc temporaire que tu te prendrais parce que t'as envie de faire quelques jeux. Par exemple, tu vois, si tu veux te faire Mover, c'est la meilleure solution possible, quoi.
Bah, le premier, parce qu'il a été traduit.
Le premier a été traduit, et Mover 2 est disponible, Earthbound est disponible, donc.
Est disponible en anglais.
Donc, si tu veux te le faire, le meilleur moyen, c'est d'avoir ce système.
Oui, mais si tu veux te le faire et si tu parles anglais, parce qu'une fois de plus, si tu parles français, si tu ne parles pas anglais, tu peux pas le faire.
Ok, donc tu veux vraiment que tout soit traduit en espagnol, français, italien, d'accord. Ok, bon.
Bah, à une époque, ils le faisaient, hein. Je suis désolé, mais les jeux GBA, ils étaient dans toutes les langues.
Non. Attends, au début, on était bien content d'avoir Fire Emblem qui sorte tout court.
Au début, on était bien content d'avoir Fire Emblem qui sorte en anglais, mais il y a plein de gens qui ne parlent pas anglais et ce serait le minimum de faire l'effort pour ceux qui payent. Et les jeux GBA, quand ils sortaient en européen, ils étaient dans toutes les langues.
Tu pourras pas me faire chialer pour quelqu'un qui a appris le japonais expressément pour pouvoir jouer à ces jeux. L'anglais était coulé de source aussi à l'époque.
L'anglais, ça serait un minimum. Je demande pas une traduction française d'F-Zero Climax, mais une traduction en anglais, ça serait un minimum déjà.
Ouais, bien sûr, ok, d'accord. Je sais pas si tu te rends compte des ressources et du.
Je sais pas si tu te rends compte qu'il y a des fans qui le font à deux tout seuls.
Oui, mais les fans, c'est un don de soi et c'est admirable.
Et bon courage. Nintendo peut payer trois personnes pour le faire. Ils ont les moyens.
Ah ouais, honnêtement, je pense que tu te rends pas compte combien ça coûte une vraie traduction. Non, ils sont pas passés. Sinon, ils auraient traduit. Sinon, Mover 3 aurait été traduit légalement, bien sûr, depuis.
Ouais, Mover 3, je pense que c'est pas que la traduction qui pose problème.
Bah, qu'est-ce qui poserait d'autre que la traduction ?
Mover 3, il y a toute une partie du jeu qui, de nos jours, posera potentiellement problème.
Mais tu penses quoi, les sectes, entre guillemets ?
Non, je pense à tous ces personnages qui sont visiblement travestis, peut-être trans.
Ah.
Et je pense que leur traitement peut poser problème et que c'est potentiellement une des raisons qui font qu'on n'a jamais eu Mother 3.
Ah, je pense pas qu'ils aient pensé à ça parce que Mover était toujours très très bienveillant là-dessus, mais écoute.
Et moi je suis d'accord, je n'ai pas de problème avec la manière dont ces personnages sont traités dans le jeu, mais je peux comprendre que Nintendo soit frileux là-dessus.
Ouais, bah écoute, c'est une réponse auquel on n'aura pas, puisque de toute manière, je pense qu'ils ne sont pas décidés
Je pense que Mother 3 on l'aura jamais.
Non, c'est fini. Mais pourquoi pas, hein, c'est un jour, mais.
Mais donc voilà, moi c'était mon coup de gueule. J'estime que le petit artisan, je sais bien que c'est le petit artisan, mais ils ont un trésor de guerre. Ils ont largement de quoi financer la traduction de la poignée de jeux qu'ils nous proposent sur leur service. Franchement, c'est pas comme si je leur demandais de traduire tous les RPG de la Super Famicom. Hein. Eux, je sais bien qu'on les aura pas.
Et en plus, c'est quand même la plateforme majoritaire, c'est la plateforme qui gagne le plus d'argent.
Non mais voilà.
Et je pense que leur truc Nintendo en ligne, depuis qu'il était passé payant, je pense qu'il est très rentable. Hein. Je me fais pas d'inquiéter pour eux.
Ah bah voilà, c'est pour ça que j'estime que c'est quand même la moindre des choses de proposer une traduction. Donc voilà, j'arrête de payer, j'arrête d'être un pigeon. De toute façon, j'ai déjà suffisamment de jeux à faire pour pas faire ces jeux-là. Enfin, je continue à payer le NSO classique, ne serait-ce que pour les cloud saves. En fait, c'est ça mon utilisation prioritaire, vu que je joue au final assez peu online. Mais les cloud saves, c'est quand même bien utile, surtout quand t'as deux Switch, ce qui est mon cas.
Ah, d'accord, ok. J'ignorais.
J'ai une normale et une light.
D'accord, ok, très bien, très bien.
J'ai la normale qui est tout le temps sous la télé.
Mais à part ça, t'arrêtes d'être un pigeon.
Ah bah, j'ai un usage des deux machines, hein. J'en ai une sur ma télé et l'autre que je trimballe en vacances.
D'accord, ok, une pour chaque main, très bien.
Voilà.
Le bois ne rend pas les coups.
Benji, c'est quoi, j'ai vu Joker 2 et j'ai pas envie d'en parler.
Alors Daniel, je te comprends complètement parce que moi j'ai pas vu Joker 2 parce que j'ai pas envie de le voir, mais... Il y a un truc qui me donne du bonheur depuis deux semaines, c'est qu'il se plante comme Jaja au box-office. Un truc que, franchement, on n'a pas forcément vu arriver. Un truc que, trois semaines avant sa sortie, les prévisions étaient à 150 millions de dollars pour le week-end d'ouverture. Personne n'a vraiment vu arriver l'ampleur du bide, en fait. Le truc, il a fait 37 millions le premier week-end.
Qu'est-ce qui s'est passé ?
C'est 2 millions de moins que Morbius. Le truc, il se rétame. Et là, sur ce week-end, Joker 2, et troisième au box-office, derrière Terrifier 3. Alors ça, par contre, c'est un truc que je comprends pas, comment ce machin peut avoir autant de succès. Mais derrière Le Robot Sauvage, que j'ai vu et dont j'ai envie de parler, et au coude à coude avec Beetlejuice, qui est genre à sa cinquième ou sixième semaine d'exploitation. Donc, Joker 2, c'est en train de se rétamer comme Jaja, mais tu n'as pas envie d'en parler, donc on ne saura pas pourquoi.
C'était un moment pénible à vivre, et je suis offusqué qu'ils aient annulé des films, quand même. Ils ont annulé Bad Girl, Honnêtement...
Ouais, mais...
Tu sais quoi ? Pourtant, j'ai vu la comédie musicale de Jacques Audiard, et je vois très bien ce que ça peut être une comédie musicale par un mec qui aime pas les comédies musicales, mais là c'est pire encore. C'est genre personne n'a envie d'être là, à part peut-être Lady Gaga, elle a pas eu le mémo, enfin je sais pas, elle a l'air contente d'être là, elle donne son maximum, mais sinon c'est nul, c'est vraiment nul, c'est d'une idiotie confondante. Et accroche-toi parce que ça démarre jamais, et quand ça démarre, la fin arrive, tu dis quoi ? Et tu sais quoi ? Je vois l'exige.
Mais ça dure 2h30, non, déjà, en plus ?
Ouais, c'est plutôt long.
Ça dure super longtemps,
ouais, c'est assez long. Ouais. Non, c'était vraiment... On en reparlera dans les blockbusters de fin d'année, puisque tu devras le voir.
Oui, mais je m'inquiète pas, d'ici la fin du mois, il est en streaming, donc je le verrai.
Oui, j'ai hâte d'avoir ton avis.
Non, mais voilà, écoute, tu sais à quel point j'avais détesté le premier. Mais il n'est pas encore exclu qu'on aille au ciné, hein, parce que ma femme n'avait pas détesté le premier, donc on peut encore être convaincu d'aller voir le deuxième au ciné.
Mais ta femme, elle pense que c'est la faute de la société aussi, c'est ça le problème.
Peut-être ça. Et comme on a un abonnement, tu sais, on peut aller le voir au ciné, ça ne me coûtera pas plus d'argent. Mais bon, j'ai vraiment pas envie. Donc à la place, je suis allé voir Le Robot Sauvage, The Wild Robot. Est-ce que tu l'as vu ?
Non, j'ai pas vu. Et j'aurais bien voulu peut-être avec mon fils, mais je crois qu'il est trop jeune encore.
Il est peut-être un peu trop jeune, ouais. Mais Le Robot Sauvage, c'est donc le dernier DreamWorks. Au niveau graphique, ça reprend un peu la même direction artistique que The Bad Guys et que le deuxième chapeauté. Donc ça reste très joli avec ce côté un peu cartoon qui vraiment passe super bien pour de l'animation en 3D. Et j'ai bien aimé. Alors j'ai entendu des gens qui étaient un peu déçus et je peux l'entendre. C'est vrai qu'on a eu un trailer qui était quasiment muet et qui avait vendu plus ou moins un film avec pas de parole. Et au final, le film est très verbeux, en fait, parce qu'à un moment, le robot apprend le langage des animaux, et donc les animaux se mettent à parler et à se comprendre entre eux et à parler avec le robot et tout. Et donc, je peux comprendre qu'il y a eu une attente qui a été déçue de ce côté-là. Mais j'ai vraiment trouvé ça chouette au final, parce que le message est sympa, le robot est sympa, le design des mécaniques, le méca-design, pardon, excuse-moi. Et je trouve assez réussi, il y a pas mal de bonnes idées, et ouais, on voit pas le temps passer, j'ai vraiment passé un bon moment. Il y a des blagues où j'ai rigolé, mais limite, c'est de l'humour noir, très sombre, et j'ai été vachement surpris que ça soit dans le film. Et ouais, non, toute la salle a éclaté de rire, on s'est regardé, genre, attends, ils ont laissé cette blague. Et j'ai été surpris à plusieurs reprises, et en bien. Donc vraiment, j'ai passé un bon moment. Alors... si vous espériez un truc vachement contemplatif et muet comme la première demi-heure de Wall-E, vous allez peut-être pas avoir ce pourquoi vous êtes venu. Mais honnêtement, moi j'ai trouvé que ça restait un film qui était super agréable avec une petite. Alors oui, la fin, il y a un espèce de. Ah, je sais pas comment le dire. Il y a une sorte de twist à la fin qui est pas super bien trouvé globalement. Tu te demandes un peu, mais genre. Tout ça pour ça, en fait. Il y a, en gros, t'as toute une scène d'action qui est globalement annulée par un choix qui est fait ensuite, et ça, tu peux te demander un peu d'où ça sort. Mais globalement, j'ai quand même passé un bon moment. Voilà, je veux pas survendre le film non plus, mais j'ai trouvé ça chouette. Si vous avez des enfants, je dirais entre 8 et 12 ans, et que vous savez pas quoi aller voir, franchement, Le Robot Sauvage, c'est vraiment de la bonne cam. Et puis visuellement, techniquement, c'est solide, quoi. Donc, moi, j'ai passé un bon moment, je le recommande. Toi, pour ton fils, il est peut-être un peu jeune.
Ouais, c'est ce que je pense, ouais.
Je dirais pas 8 ans, mais je dirais 5-6 ans minimum.
Écoute, peut-être un jour. Je préfère aller voir le Gondry. Il y a un Gondry pour enfants qui vient de sortir, donc...
Ah, bah tu vois, je n'ai pas entendu parler. Comment s'appelle-t-il ?
Alors, attends, bouge pas. C'est un titre.
Ah merde, désolé, je pensais que tu l'avais.
C'est Maya, donne-moi un titre. Tu vois, c'est pas...
Ah bah c'est parfait. Ouais, c'est... Ok.
Et ça, il paraît que c'est très adapté aux enfants de 3 ans.
D'accord.
Et écoute, Joker 2, je ne veux toujours pas en parler, écoute.
Bon, bah écoute, j'espérais pas que tu changes d'avis.
Mais tu sais, il y a un truc qui me tue, c'est que quand même, c'est un, c'est un film qui a fait... Enfin, le flop que ça va être.
Ouais.
J'en ai pas rajouté par rapport à ce que t'as dit, mais il y a un truc, ce que j'aime bien, c'est que...
C'est historique, hein. Un flop pareil, vu les attentes.
Non, mais surtout que c'est, l'original a fait... Enfin, l'original, le premier volume a fait $1 milliard.
Ouais.
Ils ont gagné un Oscar.
Et deux Oscars.
Non, deux. Ils ont gagné deux Oscars, ouais.
Joaquin Phoenix en a gagné un et Todd Phillips en a gagné un. Donc, ils ont eu deux Oscars, $1 milliard. C'était le film R-rated qui avait fait le plus d'argent jusqu'à se faire battre là, par Deadpool 3 récemment. Mais voilà, enfin...
Et en plus, alors pour si tu veux l'anecdote, c'est que l'original, Warner Bros, s'était mis avec Village Roadshow pour le financer.
Ouais.
Et donc, les partages de recettes. Tu sais pourquoi? Parce que le premier, il s'était dit... Ah, on fait quand même un film R, classé R, avec des super-héros et tout ça. Donc c'est quand même un petit peu risqué, surtout aux États-Unis, machin. Et finalement, ça avait fonctionné. Et donc, du coup, pour la suite, ils se sont dit, ah, ce coup-ci, on va le faire tout seul.
On va le faire tout seul, ouais. Bah, non, mais de toute façon, Warner, hein, depuis quelques années, ils sont dirigés par un type qui, globalement, ne connaît que les résultats sur son tableau Excel. Et puis voilà, c'est comme ça qu'il annule des films et qu'il sort ces trucs-là, quoi.
Exactement. Bah écoute, Benji, je crois qu'on a fait... Je pense qu'on peut passer à nos recos maintenant.
Bah, il me semble, oui, hein, a priori. On a bien daubé sur Joker 2, sur d'autres trucs. Donc,
sans parler une seule fois du film.
C'est ta dernière chance de laisser tomber.
Tu déconnes ? On est à 5 contre 1.
C'est 3 contre 1.
Mais comment tu comptes ?
Une fois que j'ai éliminé le chef, c'est-à-dire toi, je devrais me faire un ou deux de tes copains gonflés à bloc. Les deux derniers, ils se tirent toujours. Rappelle-toi, c'est toi qui l'as voulu.
After Eight est un titre trompeur parce qu'à la fin, on balance nos recommandations. Et Benji, je suis sûr que tu as une bonne reco aujourd'hui.
J'ai une reco. Alors, est-ce qu'elle est bonne ? Je ne sais pas. Vous me le direz. C'est un livre que j'ai dévoré en 2 soirées. Ça s'appelle Le Conte Minuit et c'est écrit par Thibaut Reiss. Thibaut Reiss, c'est un journaliste qui avait notamment collaboré à l'enquête sur Xavier Dupont de Ligonnès dans Society, qui était une enquête qui avait été absolument passionnante à suivre.
Et donc un mec qui sait écrire en plus.
Un mec qui sait écrire, un mec qui sait te finir un chapitre sur un cliffhanger qui te donne immédiatement envie de lire la suite, alors que c'est pas de la fiction, c'est globalement la biographie d'un personnage mémorable de ma jeunesse et peut-être de ta jeunesse. Si vous avez grandi dans les années 90 et si vous avez écouté la radio FM dans les années 90, vous avez peut-être entendu parler de Gérard de Suresnes. Alors Daniel, ça te dit quelque chose, Gérard de Suresnes ?
Oui, bien sûr. Qui va lâcher te prix, tout ça ? Je connais.
Ça, c'est Maurice, donc c'est pas Gérard de Suresnes.
Ah non, c'est pas lui qui disait...
Non, qui va lâcher te prix, c'était Maurice.
Non, c'était... alors comment il disait déjà ?
Lui, il disait point final à la ligne, il disait avec un con comme moi, on s'amuse, et qu'un con comme toi, on se fait chier. Et
ouais,
deux
mais,
bon gueulait,
mais quand j'ai dit,
ça, c'était Gérard.
C'est qu'il gueulait, il gueulait dans le micro.
Ah, il gueulait dans le micro, ça.
Et c'était
contre,
un peu le dîner de con.
Ah, c'était complètement le dîner de con. Alors, Gérard de Suresnes, à l'origine.
Il était pas très fut-fut. Et alors, moi, j'en avais pas la perception, mais ce que j'ai compris plus tard, c'est qu'en fait, la radio s'en moquait.
Oui, bah, c'était la radio, les auditeurs, tout le monde s'en moquait, en fait. Qui est Gérard de Suresnes ? Pour les gens qui seraient plus jeunes que nous, hein, parce que mine de rien, c'est un phénomène qui a duré 5 ans globalement, le phénomène Gérard, avant de disparaître, entre guillemets, de la radio et ensuite de disparaître tout court.
Sur une radio mainstream en plus, hein, c'est ça qui est...
Alors, Gérard était sur une radio mainstream. Gérard était sur Fun Radio et on n'a pas conscience à l'époque du succès de Fun Radio parce que maintenant, Fun Radio, c'est un peu, bon, globalement... c'est une radio qui n'a plus vraiment l'aura qu'elle avait à l'époque, mais Fun Radio à l'époque, c'était Doc Eddie Fool, c'était le public qui se déplace en masse pour manifester contre une décision du CSA de les interdire d'antenne globalement à cause des propos jugés trop graveleux pendant une émission qui s'appelait Love in Fun, donc Doc Eddie Fool. Et Fun Radio à l'époque était vraiment alors il dominait pas la bande FM, hein, c'était NRJ qui était devant, mais Fun était bien placé en fait sur la bande FM pour les radios jeunes.
C'était l'époque de l'éclosion d'une sorte de star system
chez les animateurs
radio, c'est-à-dire Arthur était sur le point de quitter la radio pour passer à la télé.
Et Arthur qui était sur Fun.
Oui, Arthur qui était sur Fun, et ensuite il est passé sur Robin. Mais surtout, ouais, il y avait une espèce de longue traîne de tous ces mecs-là qui étaient des animateurs radio et qui tout d'un coup devenaient des mini-stars, en fait. Et il y avait...
Ouais, ouais.
Et c'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui, les gens te parlent de Coé ou de Manu Lévy et de sans doute qu'ils étaient visiblement des sales types dans le travail et tout ça, plus que des sales types, peut-être même des criminels. Et le truc, c'est que, c'était les prémices de ça. C'était les prémices de ça, c'est-à-dire que les mecs, ils se sentaient plus pétés.
Bah, y avait de ça, mais donc oui, tu...
Il y avait les stars du 6h, 9h, il y avait les... Et évidemment, dans la foulée, les mecs collent à Michael Youn, bien sûr.
Oui, alors eux, c'était un peu plus tard.
Non, mais c'est un peu le même orbite, tu vois.
C'est à peu près le même principe. Donc, pour revenir à Gérard était donc un auditeur qui, un soir, a téléphoné à Max, qui était donc l'animateur des nuits sur Fun Radio, et Max, il avait une libre antenne qui était vraiment très particulière, parce qu'il n'y avait pas de thème précis. En gros, quand tu appelais Max, c'était soit pour lui raconter un truc parce que le sujet l'intéressait, ou soit pour faire un canular. Et Max, c'était quelqu'un, et ça reste quelqu'un, qui était vraiment très spécial sur la bande FM, au sens où il avait carte blanche pour passer la musique qu'il voulait. Ce qui était quelque chose qui était quand même assez rare. Et Max, il avait des goûts assez éclectiques et il lui arrivait de passer des morceaux d'ambiance instrumentale qui duraient 12 minutes, comme ça, de sa collection personnelle, juste parce qu'il avait envie. C'est un type très fin qui avait vraiment une culture musicale assez incroyable. Ça a été un des premiers mecs à diffuser Daft Punk en France, pour pas dire le premier mec. Enfin, c'est le gars, il allait te chercher des gens qui commençaient tout juste parce que il avait des contacts dans les maisons de disques et qu'il arrivait à dénicher des futurs succès.
Est-ce que tu me permets une mini remarque ?
Je t'en prie.
Autant il avait l'air pointu sur la musique, et c'est ce que tu as l'air de dire, autant je trouve que, d'un point de vue tenue d'antenne et intelligence de propos, c'était pas ouf. C'était vraiment pas génial ce qu'il faisait.
J'ai envie de dire, humainement, ça avait pas l'air ouf non plus, c'est pas la lecture du bouquin qui va trop arranger ça.
Bon, écoute, c'est l'impression que j'en avais à l'époque, en tout cas. Parce que c'est marrant, parce qu'on n'habitait pas au même endroit, on était loin d'habiter au même endroit, mais on a vécu des trucs un peu similaires en écoutant ces radios, quoi.
Exactement, oui, c'est radio, parce qu'il faut quand même le dire, Max, il commençait à 22h, et parfois, il terminait à 4h du matin. Et moi, j'étais lycéen, ça arrivait que je fasse des nuits de 4 heures parce que j'écoutais la radio jusqu'à pas d'heure et qu'ensuite, il fallait bien que je me lève. Parce que tout ça, évidemment, c'était en semaine. C'était l'époque où on écoutait la radio sur nos Walkman planqués dans nos lits pour pas que nos parents sachent qu'au lieu de dormir, on faisait ça, quoi. Donc, oui, c'était vraiment quelque chose de générationnel qu'on a presque tous partagé. Et qu'on écoute Max ou qu'on écoute Super Nana ou qu'on écoute Maurice, enfin voilà.
J'étais un petit peu Super Nana, moi. Super Nana,
j'adorais Super Nana.
Qui était la libre antenne du soir de Skyrock.
De Skyrock. Donc voilà, donc, pour revenir à Max, donc, un jour, il y a donc ce type qui l'appelle depuis une cabine téléphonique et qui lui dit, voilà, j'appelle d'une cabine et je veux lire un poème à l'antenne. Et donc, il passe le standard, il passe en direct, il lit son poème. Et c'est un poème tout pourri, mais tu sens que le type c'est pas un poète dans l'âme, il a juste eu envie d'écrire son truc. C'est pas un auteur professionnel. Et évidemment, Max, pour se foutre de sa gueule, lui dit bon, écoute, il était un peu pourri ton poème, t'en as pas un autre? Et donc il dit si, et il lui lit un autre poème. Et ensuite, en fait, il se rend compte que ce gars-là a du potentiel, et il lui dit écoute, on va te rappeler demain à la même heure dans cette cabine et tu nous fais un autre poème, mais celui-là tu le travailles, hein, tu l'écris un peu mieux. Et de fil en aiguille, à force comme ça de lui faire lire des poèmes ou de le faire passer à l'antenne, ils sentent bien qu'ils tiennent quelque chose avec ce gars-là qui est fort en gueule, qui est pas forcément super éduqué, super malin, mais qui a un avis sur tout et qui n'hésite pas à parler fort. Et un beau jour, ils le font venir dans le studio. Ils le font intervenir et ils lui confient une émission de débat entre guillemets. Avec à chaque fois des thèmes alors plus ou moins sérieux avec des auditeurs qui viennent pour entre guillemets débattre. Et si j'utilise autant les guillemets, c'est que personne n'a l'intention de faire un débat sérieux sur ces sujets. L'objectif, c'est de le faire tourner en bourrique et de le faire sortir de ses gonds. Ce qui est extrêmement facile puisque Gérard, il a un tempérament un peu sanguin et donc il s'énerve très très vite. Il a aussi le coude un peu léger, hein, c'est un alcoolique. Ça lui est arrivé de se pointer à l'antenne complètement bourré, au point qu'ils ont dû arrêter l'émission très, très vite. Bref, mais Gérard, c'est aussi un écorché de la vie. Gérard, c'est quelqu'un qui est handicapé suite à un accident de la route. Accident de la route qui l'a empêché de travailler, puisque c'est un accident qu'il a eu alors qu'il était conducteur de camion. Sa femme l'a quitté. Sa femme l'a quitté en partant avec sa fille, qu'il n'a jamais revue ensuite. Gérard, c'est un éclopé. Et Max, les éclopés, il aime bien, en fait. Il avait comme ça une galerie d'auditeurs habituels qu'il avait tendance à appeler. Alors, il y en a un autre, c'était un alcoolo, et c'était Stéphane l'alcoolo, c'était dans son pseudo. Donc, autant dire que, voilà, tu savais à quoi tu t'en tenais quand ce gars-là appelait, quoi.
Alors, pour les plus jeunes, c'était... Enfin, je sais pas si les plus jeunes nous écoutent, mais c'était vraiment une autre époque. Aujourd'hui, tu pourrais pas faire ça, quoi. C'est pas possible.
C'est complètement impossible de nos jours. Mais donc, les débats de Gérard, qui était donc à dîner de cons avec Gérard, qui était donc l'animateur, mais le dindon de la farce. Et on n'a jamais trop su s'il était conscient ou pas de son rôle. Et peut-être qu'il l'était. Et il a souvent laissé entendre, après, qu'il se rendait bien compte de ce qui lui arrivait. Mais que dans le même temps, il a eu une vie incroyable grâce à ça et qu'il serait peut-être mort beaucoup plus jeune s'il n'avait pas eu ça. Parce que mine de rien, il a été au Festival de Cannes, il a été à la première de Godzilla à New York, il a vécu des trucs, il a pris l'avion pour la première fois de sa vie grâce à ça. Il a vécu des trucs qu'il n'aurait peut-être jamais vécu sinon. Et vu l'état de dépression dans lequel il était au tout début, eh ben ouais, il n'aurait peut-être pas vécu aussi vieux, entre guillemets, parce qu'il est malheureusement décédé depuis. Et c'est une lecture qui est absolument indispensable à quiconque a connu cette époque. C'est un bouquin qui est drôle, c'est un bouquin qui est triste, c'est un bouquin qui m'a fait pleurer. J'ai lu la fin, j'étais vraiment en larmes. Et c'est un bouquin absolument indispensable pour, pas forcément une histoire d'autoflagellation, se sentir mal d'avoir rigolé à l'époque, parce que voilà, je le reconnais, à l'époque, les débats de Gérard, ça me faisait rire. L'entendre s'énerver, ça me faisait rire. Entendre les blagues, parce que les standardistes étaient évidemment complices et les standardistes inventaient des noms pour les auditeurs. C'était à peu près tout le temps les mêmes auditeurs qui venaient, qui avaient des habituelles blagues, qui savaient exactement quand le faire soutenir ses gonds, parce qu'ils inventaient des titres pour les chansons qui passaient, parce que l'idée, c'était vraiment de lui faire dire les pires horreurs. Est-ce que Gérard était complètement conscient de ça ou pas? Je pense que dire qu'il n'était que le dindon de la farce et qu'il n'avait pas conscience de ce qui se passait, ce serait lui faire un peu insulte. Je pense qu'il en était au moins conscient à minima, mais qu'il en a profité et donc que ça lui convenait au final.
D'accord.
Mais bref, tout ça pour dire que voilà.
Écoute, tu m'as donné envie de le lire.
Et je pense que c'est vraiment une excellente. Alors en plus, c'est très très bien écrit. J'ai appris des trucs dont j'avais pas la moindre, mais vraiment pas le moindre soupçon sur certaines personnes, sur certains personnages. C'est vraiment une lecture qui est, je pense, indispensable à quiconque a un jour écouté et rigolé un débat de Gérard. Et comme je le disais, hein, c'est pas une histoire de faire acte de contrition et de se reprocher à soi-même d'avoir rigolé à l'époque. Non, au contraire, je pense que c'est vraiment très intéressant pour comprendre un petit peu tout ce qui se tramait dans les coulisses et puis pour faire l'autopsie d'une époque qui est de nos jours complètement révolue, parce que voilà, c'est une libre antenne comme ça ne peut plus exister de nos jours, c'est complètement impossible.
Alors, pour ma part, tu m'as donné envie de le lire. Moi, j'écoutais pas Gérard. Je trouvais qu'il y avait un truc chelou, trop chelou dans cette histoire.
Ouais.
Et je voulais pas en entendre parler. Et dès que j'entendais sa voix, et que c'est ta gueule et tout ça, c'était pas possible, quoi.
Ah ben ça, il a balancé du ta gueule.
Oui.
Donc je veux juste redire le titre. Ça s'appelle donc Le Con de minuit, l'histoire vraie de Gérard de Suren, SDF devenu star de la radio malgré lui. C'est le titre complet, c'est le sous-titre. Le titre, c'est Le Con de minuit, par Thibaut Ress, et c'est aux éditions de Noël. Voilà.
Eh ben écoute, puisque tu as fait une vraie reco culturelle, comme on n'en fait plus, c'est-à-dire de lire des livres, c'est faut pas.
Lisez un livre.
Compte pas sur Stéphane pour faire ça. Hein. Écoute.
Écoute, et je peux l'avouer, ça faisait longtemps que j'avais pas lu un bouquin, hein, donc tu vois, je suis aussi coupable que lui.
Ben moi, je vais recommander une pièce de théâtre, et c'est encore plus, ça fait encore plus longtemps que.
Oh là là là.
On va pas recommander une pièce de théâtre. J'en sors.
C'est un podcast d'un télo ou quoi?
Non ben putain, heureusement qu'on a commencé par Ultimate Spider-Man, merde.
Oui, et puis ils se foutent de la gueule de Joker, et ouais, puis enfin tout.
Ça va. Non, non, mais pas de politique dans ce podcast, hein, rappelons-le. C'est une pièce d'ailleurs. Je l'avais manqué son premier passage à Paris, et là, elle est de retour à Paris Je ne sais pas quel va être son itinéraire. En tout cas, pour l'instant, elle est au Théâtre Saint-Georges. Et je crois que c'est les dimanches et lundis. C'est une pièce de théâtre de et avec Clément Viktorovitch. Donc, tu connais peut-être l'identité, toi qui es sur Twitter, sur le compte After Eight.
Ah bah, je connais Clément Viktorovitch, monsieur rhétorique.
Exactement. C'est une pièce qui s'appelle L'art de ne pas dire. Alors, exactement. C'est lui-même étant docteur en sciences politiques et tout ça, et expert en rhétorique. Et c'est un seul en scène où il incarne un conseiller de communication de président de la République qui s'est fait évincer et qui cherche à se venger. Et donc, du coup, il va...
Pas de politique.
Ah, ben là, oui. Et du coup, évidemment, pas de ressemblance avec qui que ce soit.
Oui, oui. Non.
Et du coup, il va décortiquer ses propres messages qu'il a fait, son propre discours qu'il a écrit au président. Et parfois, il y a des petits apartés de communication, c'est-à-dire où il va dire, ou même de rhétorique, où il va vulgariser un certain terme. Moi, je suis pas bon pour ça. Je retiens pas les figures rhétoriques. Genre, tu me dis de nana, enfin, je connais les principales, mais tu vois, les trucs pointus, j'arrive pas à les retenir. Mais par contre, ce que je trouve intéressant.
Et surtout, la plupart du temps, ça a des noms à coucher dehors aussi.
Mais par contre, ce que je trouve intéressant, c'est que ça me donne au moins une vision analytique, au moins. De me donner les armes de comprendre. Tu vois, par exemple, le bullshit des hommes politiques, et pas de politique dans ce podcast, mais le bullshit des hommes politiques, quand j'arrive à peu près à... Tu vois, quand le jour où j'ai compris ce que c'est qu'une antiphrase et que Nicolas Sarkozy l'utilise dans son discours, et que... Pas de politique, évidemment, mais j'ai pris Nicolas Sarkozy, évidemment.
Au hasard. Hein.
Ouais. Nicolas Sarkozy dit une antiphrase, c'est le lendemain de son mariage, et il arrive dans cette usine, parce qu'il devait aller à cette usine, et le lendemain de son mariage, il dit « Ah, bah, c'est l'endroit idéal pour une lune de miel après le mariage », et que tu comprends que c'est une antiphrase, et que c'est pas du tout ce qu'il a en tête. Et ben là, j'ai fait « Ah, ok ». Et en fait, ce genre de choses me donne un peu les outils... Pour moi, hein, ce que j'en ressors, c'est que ça me... Lui, en tout cas, sa manière d'analyser, ça me donne un peu des outils, au moins des petites brives de quelque chose que je retiens un tout petit peu et qui me permettent d'identifier quelque chose et au moins de mettre le doigt sur ce qui va pas dans le discours que je suis en train d'écouter. Alors évidemment, c'est le discours politique, mais il pourrait s'adapter à toutes les formes de discours, hein, évidemment. Et je trouve ça très, très bien maîtrisé. C'est pas du tout prêchi-prêcha dans le sens... je sais que moi, je suis... c'est aussi pour ça qu'on fait pas de politique dans ce podcast. C'est aussi parce qu'on n'est pas là pour dire nos opinions, mais il est comme ça aussi. C'est-à-dire, il te donne l'arme et puis tu en fais ce que tu veux. Il te le dit, c'est une arme de réflexion et puis tu réfléchis avec. En fait, c'est ce qu'il te le dit même nommément dans la pièce, sans jamais rentrer dans des clivages politiques et tout ça. Il te prend juste... Visiblement, c'est à peu près Macron, hein, la personne qui décrit, voilà, c'est genre, mais c'est libre à toi de le croire ou de pas croire, ça pourrait être quelqu'un d'autre aussi. Hein. Donc voilà, c'est une pièce politique, c'est une pièce politique. Là, ça dure ça file à toute vitesse, mais c'était vraiment très très bien, très très maîtrisé et ça m'a fait plaisir de voir un truc politique engagé et assez intéressant. Alors évidemment, tu peux pas y aller avec ton fils. Hein. Je pense que à 4 ans, mon fils, il aurait pas plu. Mais voilà, si t'es un ado ou même post-ado, je pense que c'est... Si tu commences à avoir un éveil là-dessus, je pense aussi que c'est intéressant. Bref, voilà, c'est Clément Viktorovitch. Ça s'appelle L'art de ne pas dire. Et c'est en ce moment au Théâtre Saint-Georges, voilà, à Paris. Et il a fait une tournée avant... Et je pense qu'il refera une tournée après, mais je suis pas son tourneur, donc je sais pas ce qu'il fait.
Donc tu saurais pas me dire s'il fait une date à Los Angeles.
Écoute, tu sais quoi, je vais lui envoyer un message. Je vais lui dire, Clément, dis-moi, est-ce que t'as pas une date à Los Angeles? Et s'il est au Town Hall, je sais pas, de Downtown, de je sais pas quoi, tu vas bouger ton cul juste pour le voir.
Ah ouais, j'irai.
Voilà, donc c'est Marocco. Et je crois que c'est tout pour aujourd'hui, Benji.
Eh ben oui, et je sais pas si tu te souviens, mais la première fois que tu m'as rendu visite à Los Angeles, on est parti faire un tour en voiture by night, et on est tombé sur une salle où il y avait Enrico Macias qui jouait.
C'est vrai, je viens de me souvenir grâce à toi, merci à toi.
Tu vois.
Et on a fait plein de choses.
Donc, Enrico Macias, Clément Viktorovitch, on n'est pas si loin.
Est-ce que
donc,
t'aimerais bien jouable. Que je revienne pour revivre des moments comme ça?
Bah écoute, moi je suis partant. Hein.
D'accord. Et la prochaine fois, on parlera d'Alien Romulus.
Ah oui, c'est vrai. Oh zut, on a oublié de parler d'Alien Romulus.
Merde alors. C'est dommage. Hein.
Écoute, c'est moche.
After Eight est disponible sur after8.fr et sur tous les podcasts, tous les tous les podcasts dédiés, Benji, je crois qu'on a...
Toutes les applis de podcasts dédiés.
Écoute, je suis au bout de ma vie.
T'es fatigué, c'est normal, on enregistre parlant, tard aussi.
Vocalement parlant, je suis au bout de ma vie. Ma meuf disait, non mais jamais il voudra. Il va te laisser en plan. Et c'est pour ça que je t'ai envoyé des messages genre, t'es OP, parce que là je commençais à... Et heureusement que tu étais venu à temps. Tu m'accueilles.
Ah non, mais on a failli annuler à la dernière seconde, mais finalement, ça s'est bien passé.
Mais voilà. Tout ça, c'est parce que tu fais des vide-greniers, faut le dire.
Ah bah oui, j'ai fait un vide-grenier chez moi. Voilà, si vous voulez tout savoir, j'ai fait un vide-grenier chez moi tout le week-end. Donc, c'est beaucoup de travail, mine de rien, préparer tout le bordel, tout mettre en place entre 6h et 8h du matin. Et puis à 8h, les gens arrivent. Et puis ensuite, en fin d'après-midi, on remballe. Et puis voilà, donc c'est beaucoup de boulot, mine de rien.
Exactement. Bah écoutez, on vous embrasse très, 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 très fort. Tu sais que mon fils, quand je suis revenu, tu sais, ma meuf, elle est très, très vide-grenier. Elle est très, très, elle fait tous les vide-greniers possibles. Ah,
tu m'as dit, hein, c'est pour ça, hein, je t'ai dit, hein, la prochaine fois que vous venez, si elle veut tenir notre vide-grenier, elle est la bienvenue.
Elle fait sur Insta les photos, machin, elle aligne tous les trucs qu'elle a achetés. Et mon fils, quand je suis revenu du Japon.
Ah oui, non, ce serait pour le tenir, ouais. Pas pour acheter des trucs. Enfin, elle peut acheter nos conneries si elle veut aussi, il n'y a pas de souci.
Elle a tenu déjà des stands. Je dis pas où, mais d'accord. Elle a tenu des stands. Et une fois, j'avais dit où, et j'avais dit, il y a des t-shirts Uniqlo à moi et tout ça. Et il y a des gens qui sont venus. Il y a des auditeurs qui sont venus. Mais bon, là, pour l'instant, c'est plus d'actualité. Mais en tout cas, mon fils, quand il a vu tous les cadeaux que je lui ai ramenés du Japon,
ouais.
Il les a tous mis par terre, alignés. Il a dit à sa mère, il dit, pour une photo. il a déjà compris le loot.
Il a déjà préparé comment faire un vide-grenier aussi.
Voilà, exactement. On vous embrasse très fort et on vous dit à très, très, très bientôt. Prenez soin de vous, s'il vous plaît.
Bisous.
T'as vu, j'ai dit s'il vous plaît à la fin, c'est bizarre.
Ouais, tu m'as un peu pris par surprise.
S'il vous plaît, mais j'aime bien être poli.
Et j'ai même pas fait gaffe, t'as remercié le Patreon ?
Non, attends, c'est quoi, je vais...
Non, mais c'est pas grave, ça fera un excellent bonus.
Patreon.com.
Merci à tous les gens qui donnent sur patreon.com.
Mais là, en bonus, là, vraiment, là, je pense
on pense à vous.
Mais je suis tellement au bout de mon life. Sachez que tous les Patreons, ça m'aide à acheter les médocs, là, hein, c'est vraiment là.
Mais de toute façon, les Patriotes, c'est nos auditeurs les plus fidèles, donc c'est les gens qui écoutent les bonus. Donc voilà.
Mais tu sais quoi, en plus, j'ai des Doliprane, là, et tu sais, Doliprane, ils ont été revendus dans le... Je sais pas si t'as vu l'actualité de Doliprane.
Sanofi les a vendus, un truc comme ça.
Sanofi l'a vendu à une entreprise américaine, et genre, c'est gros scandale, parce que Doliprane, c'est le médoc le plus vendu en France.
Ah bah oui, non, mais Sanofi, quoi. Les champions.
Ah, Sanofi. Et du coup, je pense que l'action Sanofi va mieux se porter qu'Ubisoft.
Écoute, c'est pas impossible.
Une production RPU.